Voilà, donc bonjour. Donc j'ai vu qu'il y en avait qui avaient déjà subi ça l'an passé, puis certains même l'année encore précédente. Alors je vais essayer de changer un peu le contenu de ce cours de culture numérique, ce cours introductif. Alors il y a un dilemme de l'enseignant, c'est qu'il aimerait partager tout ce qu'il sait, essayer de vous le donner pour que vous puissiez vous en servir à aller plus loin. Alors le dilemme du conférencier qui n'a que 2 heures pour transmettre tout ce qu'il a envie de transmettre, c'est encore pire. Donc voilà, je vais essayer d'aborder plein de choses. La gentillesse habituelle de Christine fait que, en général, vous n'êtes pas interrogé sur ma conférence et ça tombe bien pour vous. Voilà. Donc culture numérique, c'est deux mots, donc culture et numérique que je vais essayer de développer au début. La culture, c'est elle-même deux aspects. La culture, c'est un aspect d'abord anthropologique. Qu'est-ce qui fait qu'une nation, qu'une société partage une certaine culture, une manière de manger, une manière d'exister, une manière de se comporter, une manière de se rencontrer, etc., etc. Donc, qu'est-ce qui fait une culture au sens anthropologique, qui a été définie principalement par une chercheuse anthropologue qui s'appelle Ruth Benedict. Et puis, la culture, c'est aussi les artefacts culturels que construit une société, ceux qui vont aller dans les musées, dans les bibliothèques, dans les livres, dans les théâtres, dans les cinémas, tiens, sur Internet, par exemple. Voilà, donc c'est un peu une notion lettrée de la culture. Ce qui est intéressant, c'est de voir que les deux aspects sont profondément modifiés dans les 20 dernières années par le numérique. C'est-à-dire, le numérique s'adresse pas uniquement à la culture lettrée, même si on a numérisé toute une large partie de l'activité culturelle. Ça ne s'adresse pas uniquement à nos modes de vie, même si dans notre réalité quotidienne, on a tous dans la poche un petit appareil qui est un ordinateur plus puissant que celui qui a réussi à envoyer un homme sur la Lune. Et qui nous sert pour tout. Pour tout, on va y revenir. Donc, un profond changement des relations sociales telles qu'elles se tissent dans ce modèle de la culture au sens anthropologique. Voilà. Le deuxième mot, c'est numérique. Alors, numérique, c'était un adjectif. C'est devenu un nom commun, le numérique. Le numérique, c'est d'abord du calcul. À partir du moment où il y a numérique, ça veut dire qu'il y a une phase où tout ce que l'on va voir, entendre, écouter, lire, écrire, va passer par une phase de calcul numérique. Alors ça commence, c'est la distinction entre le sillon d'un vinyle et le codage numérique d'un CD. Voilà, donc la musique est dans un cas analogique, c'est une reproduction physique quelque part du son que nous allons entendre, et dans l'autre, il y a un codage. Qui dit codage dit la possibilité de faire des calculs secondaires. Et c'est ça qui va être déterminant dans le cours de culture numérique, c'est quels sont tous ces calculs secondaires qui sont faits. Par exemple, quel va être l'usage des traces que l'on laisse, quel va être l'usage de la possibilité de bloquer la diffusion d'une information avec ce qu'on appelle des DRM, c'est-à-dire des verrous numériques qu'on introduit à l'intérieur d'objets numériques, de documents numériques, etc., etc. Donc, à partir du moment où il y a du calcul, il y a la possibilité d'avoir des calculs secondaires qui ne sont pas ceux pour lesquels nous regardons une vidéo, nous écoutons une musique ou nous lisons un texte, voilà, ou nous l'écrivons. Ensuite, le numérique. Comment dire? On l'a associé au début au calcul, donc je viens de le dire, donc à l'ordinateur, qui est l'appareil de calcul par excellence. Oui, mais vous savez bien que le numérique aujourd'hui, c'est tout. C'est tout le reste. C'est le téléphone, c'est l'appareil photo. D'ailleurs, souvent, le téléphone et l'appareil photo, c'est la même chose. C'est la carte bancaire. D'ailleurs, souvent, le téléphone et la carte bancaire, c'est en train de devenir la même chose. Enfin, bon, on voit bien là que l'ensemble de nos activités va avoir, à un moment donné, une phase numérique. Et ça implique forcément d'y réfléchir comme citoyen, hein, c'est-à-dire qu'est-ce que ça change dans l'organisation de la société, dans les projets de société, qu'est-ce que ça change dans l'économie et qu'est-ce que ça change dans la relation de chaque individu à l'ensemble de la culture, premier point avant. Bien évidemment, je pense qu'on ne peut pas uniquement utiliser les deux termes, culture et numérique, sans y ajouter le troisième, les médias. Au lycée, au collège, on parle d'éducation aux médias et à l'information, l'EMI. Et donc, ce n'est pas pour rien, c'est que les médias sont un modèle, en fait, de la constitution de l'agora citoyenne, de la place collective. Les médias, c'est ce qui va servir à construire de l'information et du divertissement. On a toujours tendance à dire qu'on construit l'information, surtout à la fac, dans un amphi, etc., mais l'usage principal, c'est le divertissement. On regarde plutôt les films à la télé que on regarde les informations. Voilà. Alors, ce qui est quand même important du point de vue de ce qu'on doit comprendre des médias pour pouvoir voir comment ça se transforme avec le numérique, c'est ce vieil adage des médias. Les médias ne nous disent pas ce qu'il faut penser, mais ce à quoi il faut penser. Et ça, c'est important parce qu'on a souvent une critique qui est faite aux médias qui ne nous dirait pas la vérité, qui nous cacherait quelque chose, qui essaierait de nous manipuler. Non, ils choisissent, ils éditorialisent. C'est-à-dire, ils vont choisir parmi toute la masse d'informations celle qui va être à la une, celle que l'on met à l'agenda, celle à laquelle il faudra penser, tous collectivement. Alors, bien sûr, le fait que tous les médias aient envie de mettre les mêmes choses à la une, de les mettre à l'agenda, ça transforme profondément notre univers politique, notamment, ou social, ou citoyen. Voilà. Donc, comment ça va se passer quand on passe au numérique, c'est-à-dire qu'on a une espèce d'individualisation des médias. On va non plus regarder tous ensemble la même chose et en parler le lendemain matin. On va choisir en replay, au moment où on veut, en fonction de notre humeur du moment. Et plus encore, on va le choisir maintenant directement sur des systèmes informatiques qui ont été faits pour découper le flux des médias, la tendance à ce qu'on soit abonné à quelque chose, abonné à une chaîne télé qu'on va choisir, abonné à un journal, abonné à une revue, etc. Et donc, ça va être tendance à le découper en éléments, en documents séparés. J'ai parlé aussi dans cette diapositive de la distinction entre l'information et la publicité. Bon, vous savez bien que c'est une distinction formelle. Il y a du publi-reportage souvent. Par exemple, dans la presse musicale ou la presse cinéma ou la presse people ou la presse féminine sont globalement des contrôles des choses qui sont proposées par les producteurs et qui vont être mis. Donc, il y a ça. Et puis, avec Internet, on a cette publicité incrustée à l'intérieur du document. Donc là, on a une première bascule très importante, en fait. Et la deuxième chose dont il me semble qu'il faut parler, c'est la question des faits. Les journalistes sont censés rapporter les faits qu'ils ont vus. Certains, les éditorialistes, par exemple, font de l'analyse de ces faits, en tirent des conclusions. Souvent, à partir des mêmes faits, ils peuvent tirer des conclusions radicalement différentes du point de vue de leurs opinions politiques. Mais il y a une prééminence des faits. Or, ce qui est en train de se passer dans nos sociétés en général, que ce soit au travers des médias ou au travers des médias sociaux, ça va être ma diapositive suivante, c'est la disparition des faits derrière les opinions. C'est-à-dire comme si nous n'avions plus les moyens de regarder les faits et de dire « oui, moi j'en tire telle conclusion, toi t'en tires une autre conclusion, voilà, moi je lis le Figaro, toi tu lis l'Humanité, ben oui, on n'est pas d'accord, mais on a une base commune qui est celle des faits. » Or, selon la dialectique portée par Kellyanne Conway, qui est la chargée de presse du président Donald Trump, il y a maintenant l'existence de faits alternatifs. « Oui, je n'ai pas vu le monde comme vous, les faits sont différents. » Bah oui, alors là, on est mal barré, du point de vue de la citoyenneté, du point de vue de la compréhension. Mais si, en plus, on participe de la redistribution de ces faits alternatifs, c'est-à-dire où on fait passer des opinions avant l'analyse du monde, le regard sur le monde, tout simplement, on va accentuer, en fait, ce phénomène. D'où l'emballement qu'on connaît à l'heure actuelle autour de ce qu'on appelle les infox, avec des conséquences quand même très importantes, par exemple sur les élections dans les grands pays, ou des conséquences très importantes sur les règles sanitaires que nous devons occuper, que nous devons utiliser dans la période actuelle, et qui sont des règles de protection collective, voilà, contre la nature avec laquelle, de toute façon, il va nous falloir vivre. Alors, derrière la question des médias, aussi distinguer information et communication. Les médias produisent de l'information, que ce soit l'information d'actualité ou que ce soit du divertissement. C'est des documents qui vous sont projetés envers vous. Avec le numérique, ce qu'on met en avant, c'est la communication. D'ailleurs, le symbole de l'appareil numérique, c'est le téléphone. Et le téléphone, il était fait pour communiquer directement entre des personnes. Et il s'est élargi maintenant, avec le numérique, à des communications de groupe, avec des groupes sur WhatsApp, sur Discord, avec toutes les activités que vous pratiquez au quotidien. Alors, je vais vous donner un petit exemple d'actualité. C'était il y a 15 jours.
Et belle cette passe de Thiago Alcantara.
Écoutez bien.
Ah, mais là, c'est
écoutez.
Bien serré de la part de Kimpembe, encore.
Et là, tout de suite, la prise de profondeur avec Mbappé, avec Neymar.
Allez.
Et Neuer derrière, ça
rentre.
Je m'arrête là. Bon, arrêt magnifique du goal, c'est vrai. Mais vous avez bien écouté, vous avez entendu. Il y avait tous les supporters qui étaient en train de crier. Mais les tribunes sont vides. On était à Lisbonne. Et là, il y a un problème. Il y a un problème sur les faits dont je vous parlais tout à l'heure. Parce que, est-ce que vous seriez resté une heure et demie devant un match de foot sans entendre les supporters? Je ne crois pas. C'est ennuyeux. Enfin, c'est fun d'avoir les supporters. Mais le fait de savoir que les tribunes sont vides et qu'on entend quelqu'un qui joue de l'orgue à bruit, de l'orgue à supporters, qui monte en puissance quand son équipe favorite avance, qui applaudit, qui fait des « oh » et des choses comme ça. Donc quelqu'un qui fait de l'orgue à documents sonores en même temps, ça nous montre qu'on est là pour faire du spectacle et pas pour rendre compte des faits. Parce que pour les joueurs qui, eux, étaient tout seuls sur la pelouse sans les supporters, c'est un sacré changement. La vérité des faits, ça aurait été de justement pouvoir vivre comme eux cette situation difficile pour eux. Hein, voilà. Donc on voit bien que les médias construisent une société du spectacle. Alors c'est le titre d'un livre qui est un grand classique. Je ne sais pas s'il se lit encore, je l'ai lu il y a longtemps. Bon, il date de 1967, il y a plein de références qui ont peut-être échappé. Même si, en fait, le philosophe Giorgio Agamben dit « Ce qui est terrible avec ce livre, c'est que toutes ces prédictions se sont réalisées. » Bon, qu'est-ce qu'il nous dit en substance? Dans la première phase, il dit « Toute la vie des sociétés dans lesquelles règnent les conditions modernes de production s'annonce comme une immense accumulation de spectacles. » C'est une reprise, une parodie de l'incipit du Capital de Karl Marx, avec cette idée que le mode de production moderne a séparé le producteur de ce qu'il produit, et avec la société du spectacle, il a séparé le consommateur de ce qu'il consomme. C'est-à-dire, il n'y a... Est-ce qu'il y a un rapport entre la frite congelée qu'on sort du congélateur et la pomme de terre ? Caricature, bien sûr, mais la question qui se pose est celle-ci. Comment, en fait, on a aliéné le consommateur en le séparant de son moi producteur ou de son moi citoyen? Typiquement, le consommateur veut payer le moins cher possible, et le moi producteur voudrait être payé, lui, le plus cher possible à son boulot. Il y a là une contradiction. Et donc, la société du spectacle va être la manière dont on va médiatiser ces relations, y compris ces relations de force entre le moi producteur, le moi consommateur et parfois le moi citoyen, par exemple. Le moi citoyen qui s'inquiète du réchauffement climatique et qui est en contradiction forcément avec son moi producteur qui veut continuer à garder un boulot et son moi consommateur qui veut continuer à dépenser sans compter et à changer d'habit tous les ans avec la mode. Voilà, donc on a cette contradiction-là et elle est médiatisée dans la société du spectacle par les images qui provoquent en retour une aliénation collective de la société. Voilà. Alors, c'était bon, une introduction un peu longue. Pour arriver maintenant, une fois qu'on a parlé culture, numérique, médias, hein, on débouche sur les médias sociaux. Oh, je dis les médias sociaux, mais voyez bien que j'ai mis Facebook en gros. C'est pas pour rien. C'est 2 milliards de personnes utilisant le même média social sur toute la planète. De très nombreux pays, les gens n'ont pas accès à Internet, ils ont accès à Facebook. Pour eux, Internet, c'est Facebook. On ne vous donnera pas en Indonésie une adresse mail, on vous donne votre compte Facebook. Enfin voilà, donc toute une série de relations passe par cet immense média social qui a la moitié des internautes de la planète, donc plus de 2 milliards, soit un pouvoir disproportionné. Alors, pourquoi je dis médias sociaux et non pas ce terme qui, à mon avis, est erroné, qui dit réseau social? Les réseaux sociaux, ça existe, mais ça existe dans la société des humains. C'est ce dessin où on a une famille, on a des amis de travail, on a différents réseaux avec lesquels nous interagissons et qui constituent notre monde social. Dans le soi-disant réseau social des médias sociaux, online, on met tous nos amis dans le même paquet et on cause tous ensemble. Là, on n'a plus des relations qui sont diversifiées. On a une logique groupale, en fait, qui vise à nous faire penser comme nos amis. Pourquoi ? Parce que ça nous permet d'acheter la même chose que nos amis. Un des premiers basculements dans Facebook, ça a été le moment où on a pu mettre sur un mur que vous aviez acheté quelque chose, vous aviez aimé quelque chose, et donc vos amis étaient mis au courant. Effet d'entraînement de groupe. Deuxième raison pour laquelle c'est plus intéressant de l'appeler média social plutôt que réseau social, c'est que dans un réseau social, ce qui est intéressant, c'est ce qu'on appelle les trous structurants. C'est-à-dire, moi j'ai un réseau social comme ça, mais cette personne-là a aussi un réseau social. Et comment on va repérer les trous ? Les trous, à un moment donné, de groupes sociaux, de grappes qui ne sont pas connectés. Et en les connectant, on crée de nouvelles relations sociales. En général, par exemple, c'est comme ça qu'on va découvrir l'homme ou la femme de sa vie, enfin, etc. C'est des amis d'amis, c'est tout ça. Donc, ça, c'est le réseau social. Le média social ne fait pas du tout ça. Le média social nous regroupe à son service. C'est lui qui gagne de l'argent. C'est pas nous. Nous, on produit. On produit de l'information. On écrit, on échange, on like, on fait tout ça. Mais c'est le média social qui gagne de l'argent avec ça en créant de nous un profil. Donc, c'est bien lui qui est le bénéficiaire, qui est l'organisateur. Mais qui plus est, c'est lui qui choisit ce qu'on va voir. Dans le temps, Twitter avait un flux chronologique. Quand j'allumais Twitter, j'avais, parmi ceux que je suivais, dans l'ordre, voilà, ce qu'ils avaient dit. Aujourd'hui, il y a un algorithme qui est semblable à celui de Facebook, qui dit ça va créer de l'engagement, donc je te le mets en avant. Ce qui fait que je vois beaucoup plus les posts de certaines personnes et beaucoup moins, voire plus du tout, ceux des autres. C'est un média, donc il a éditorialisé ce que moi je vais voir. Alors, c'est ce qu'on appelle l'économie de l'attention. Les médias, en général, captent votre attention pour la revendre à un tiers. Ce que l'ancien président de TF1 disait, mon métier, c'est de vendre du temps de cerveau disponible. Dit comme ça, ça fait un peu vulgaire. Mais en même temps, ce temps de cerveau disponible, c'est un vrai métier de le capter. Il faut le garder, il faut le prendre et le garder. Donc, c'est pour ça qu'il y a plusieurs chaînes de télévision et qu'entre TF1 et Arte, ce n'est pas les mêmes types de temps de cerveau. D'accord ? C'est une autre relation de disponibilité qui est faite devant son média. Eh bien, les médias sociaux, c'est un peu pareil. Ils cherchent à se distinguer sur qu'est-ce que je vais mettre en avant qui va faire que les gens restent, c'est-à-dire qu'ils restent sur le média. Leur objectif, l'attention, c'est de rester sur le média parce que, une fois de temps en temps, on glisse une publicité qui rapporte de l'argent aux médias. Voilà. Et puis, pour celui qui produit, c'est, il va rester parce qu'il a une récompense. La récompense, c'est le nombre de likes, le nombre de retweets, le nombre de vues, etc. C'est toute une série de choses qui nous font penser que ce qu'on a fait, ça a été vu, aimé et commenté par les gens de notre réseau social, là au sens des autres individus qui participent. Voilà. C'est comme ça que marche la série de la recommandation. Nous capter, provoquer de l'engagement, nous rendre en fait addicts. YouTube est une grande spécialité de ça, avec le défilement automatique des vidéos qu'il a mis dans sa colonne de droite. En général, des vidéos qui n'ont rien à voir avec la question qu'on a posée, tout simplement parce que lui, ce qui l'intéresse YouTube, c'est que vous restiez. Et donc, il sait les vidéos que les autres regardent jusqu'au bout, et donc il va vous mettre d'abord celle-là. Donc il a des algorithmes qui calculent la viralité. Donc on voit bien que c'est un média. Il éditorialise. Il nous dit à quoi il faut penser. Mais en plus, c'est un média qui est plutôt toxique parce que pour nous garder, il monte aux extrêmes de plus en plus. Il provoque ce que les gens des médias sociaux appellent de l'engagement. Et l'engagement, on va rester engagé si l'information est courte, si on n'y est pas trop longtemps, parfois si elle est vulgaire, si elle va enclencher des pugilats. Donc voilà, tout ça, c'est des choses qui nous font rester pour toute une série de bonnes raisons. Je veux dire, c'est pas parce qu'on est bête qu'on reste devant un match de boxe. C'est parce que ça a quelque chose qui est intéressant, qui réveille en nous des pulsions, de l'intérêt. Enfin voilà, on est engagés tous. Il y a une certaine tendance à dire cet engagement, il serait celui de ceux qui ne pensent pas trop, mais les grands penseurs, comme chacun d'entre nous, n'est-ce pas, eux, y échappent. Non, ce n'est pas vrai. On est tous, peut-être sur des choses différentes, mais victimes de cette logique d'engagement, victimes de cette société du spectacle. Si, juste une dernière chose, la publicité, c'est quelqu'un qui veut faire connaître son produit. Eh bien, quand vous créez une page Facebook ou un groupe Facebook, si vous voulez que les gens qui ont liké votre page voient quand même la réponse, il faut payer Facebook. Donc la publicité, ce n'est pas seulement une publicité externe qui viendrait d'en dehors du monde de ce média social, la publicité pour une voiture, pour une télévision, pour je ne sais quoi, c'est de la publicité interne pour faire savoir qu'on existe à l'intérieur du média social. Je vais accélérer. Il y a un moment qui est assez charnière, qui est la publication le 17 juin 2014. C'est important, les moments charnières, parce que c'est parce qu'il y avait un avant et un après. Ce jour-là, dans une grande revue scientifique qui s'appelle Proceeding of the National Academy of Science aux États-Unis, paraît un article qui dit « Nous avons la preuve qu'on est capable de modifier sur un niveau de masse la contagion émotionnelle, transmettre des émotions à un niveau de masse. » Et qui a rédigé cet article-là ? Des chercheurs internes à Facebook. Qu'est-ce qu'ils ont fait ? Ils ont pris 600 000 personnes. Pour une partie, ils valorisaient les messages tristes et pour l'autre partie, les messages gays. Et à la fin, ils étudiaient ce que les gens eux-mêmes répondaient. Et ceux à qui on mettait des messages tristes répondaient par des messages tristes. Ceux à qui on mettait des messages gays répondaient statistiquement, hein, pas systématiquement. Il faut toujours comprendre que ce n'est jamais un enchaînement automatique de cause à effet. Mais statistiquement, c'était significatif. On pouvait faire de la contagion émotionnelle. Et là, immédiatement, dans le New York Times, Jaron Lanier, qui vient d'être présenté très récemment comme la conscience de la Silicon Valley, parce que c'est l'inventeur de la réalité virtuelle dans les années 80. Et il dit, maintenant qu'on sait ça, les prochaines études, ça va être comment on améliore cette contagion émotionnelle, au service de qui ? Au service de la publicité. Il a écrit, si vous lisez l'anglais, il n'est pas traduit, un très bon livre qui dit 10 bonnes raisons pour quitter maintenant les médias sociaux. Il dit qu'en fait, on les appelle médias sociaux, mais la vraie nature, c'est ce qu'ils appellent des boomers. C'est des modificateurs du comportement des usagers pour créer des empires de rente. Donc en fait, l'idée, c'est qu'on va se servir de cette recherche scientifique, entre guillemets. Oui, parce qu'en science, toujours on prévient quelqu'un qu'on va faire une étude avec lui. Là, on a pris 600 000 personnes sans les prévenir. Le PNAS, le journal, a dit « Oui, si c'était des universitaires, on n'aurait pas accepté l'article parce que ça ne se fait pas. Mais c'est des privés, qu'est-ce que vous voulez ?» Bref, donc tout ça pour dire qu'en fait, ça provoque des sentiments d'agressivité, des sentiments d'addiction, des choses comme ça. Ce que Zeynep Tufekci, une autre grande sociologue des États-Unis, enfin turque et États-Unis, dit, nous avons construit une dystopie. Dystopie, c'est le contraire de l'utopie, c'est le monde qui tourne mal, dans le simple but de faire cliquer les gens sur des publicités. Voilà. C'est ce que moi j'appelle une industrie de l'influence. L'influence, c'est l'humanité. Hein. On s'influence les uns les autres. Si vous voulez que quelqu'un tombe amoureux de vous, vous avez intérêt à l'influencer. Quoi. Et donc, c'est quand même une grande activité humaine, ça. Mais quand on en fait une industrie, y compris avec du matching qui va vous donner la personne avec qui vous avez le plus de chances d'avoir une dette, bon, voilà, on crée une industrie de l'influence. Pause, respiration. C'est dur de causer avec le masque. Hein. Alors, autre aspect de ça, c'est télévision et Internet. Je dis Internet, mais vous voyez bien, c'est YouTube. Quand on parle médias sociaux, c'est Facebook. Il y a tous les autres, hein, de Snapchat à TikTok, mais bon. Quand on parle de la vidéo sur Internet, c'est YouTube. Il y a tous les autres, d'accord, mais il y en a un qui fait 90%, c'est YouTube. Donc, avec la vidéo sur Internet, on passe de cette logique du flux, je m'insère dans le flux qui est distribué par quelqu'un d'autre, à une logique de choix, enfin en principe de choix, enfin en principe d'usage personnel. Mais YouTube ou son compère Netflix savent que le meilleur moyen que vous choisissiez ce qui les intéresse, c'est de vous proposer systématiquement une suite dès qu'une vidéo est finie, dès qu'une série est finie. C'est l'enchaînement automatique pour vous garder, pour garder votre engagement. Voilà. La télévision, ça reste le média de masse. C'est encore ce qui est le plus regardé. Oui, mais en dessous de 30 ans, c'est plus aussi sûr que ça. En dessous de 25, il est sûr que ce n'est pas la télévision. Donc on a là une première bascule, et vous verrez en vieillissant, je ne sais pas si vous rebasculerez vers la télévision, si vous resterez des adeptes plutôt de la sélection, c'est-à-dire de l'individualisation de votre flux vidéo, de votre flux de divertissement, parce que c'est ça qui est quand même l'élément essentiel. Ah tiens, ah non, 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 non. Vas-y, joue. Bon, je vais peut-être pas vous le passer jusqu'au bout. Ça, c'est une publicité de YouTube. C'est YouTube lui-même qui fait une publicité qui peut lui revenir dans la tronche. Il nous montre qu'il nous regarde. C'est-à-dire, il veut montrer qu'il a une accroche avec son lecteur, qu'il a une spécial connection with his audience. Okay. Mais en réalité, il nous trace. Il nous trace pour nous proposer des vidéos qui vont... Voilà. Et donc, c'est accessoirement le message secondaire de cette publicité de YouTube. Ils sont tellement immergés dans ce système où ils nous tracent qu'ils ne se rendent pas compte qu'en faisant cette publicité-là, ils le disent ouvertement au grand monde. Alors, qu'est-ce qu'ils font derrière, ce qui a monté aux extrêmes? Toujours, très vite, je vais pas le mettre, parce que là, il y a une vidéo, mais on voit bien, quand on descend la pente, on monte toujours aux extrêmes. Ce qui explique pourquoi YouTube est l'outil préféré de la propagande terroriste. C'est leur outil préféré parce que l'engagement va toujours plus loin, plus fort, plus... Et voilà. Alors, vous croyez que ça, c'était réservé au numérique, d'individualiser le flux, notamment d'individualiser la publicité? Eh bien, depuis un décret du 5 août 2020, la télévision a maintenant le droit de cibler sa publicité. Comment ça va se passer? En fait, dans la séquence publicitaire, certaines publicités seront diffusées, disons, nationalement, et d'autres seront diffusées, dans un premier temps, régionalement, donc avec la publicité locale, mais dans un deuxième temps, individuellement, par le biais des fournisseurs d'accès Internet, puisque maintenant, 60% des gens regardent la télévision via leur box Internet. Et donc, on voit là, je vous disais que le numérique fait changer beaucoup de choses, beaucoup de pratiques. Voilà, on a un exemple très concret. Et c'est les autres pratiques médiatiques qui vont s'aligner sur celles qui ont fait le succès de l'Internet. Alors, autre chose, vous connaissez cette expression, les « digital natives ». Vous en feriez partie, paraît-il. Vous êtes né avec une souris dans la main. Maintenant, vous n'avez plus besoin de souris. Donc, à quoi ça a servi? Ça, je ne sais pas. Mais en tout cas, c'est un terme marketing qui dit qu'en fait, vous êtes actif et rapide avec les outils numériques et donc vous vous en servez mieux que les vieux schnocks comme moi. Ouais. J'aime bien la phrase de Esther Aguitaï, qui est une sociologue des États-Unis, qui dit « En fait, on a beaucoup plus à faire à des naïfs du numérique qu'à des natifs du numérique. » Étant né avec, vous êtes moins sensible, forcément, que je ne peux l'être, aux diverses formes de manipulation, aux formes de ce qu'il y a à l'intérieur du contenu, au type de sélection qui s'effectue, ce que j'essaye de dévoiler, de déchirer ici, dans mon cours. En même temps, il y a des bonnes réponses. Vous connaissez l'expression « OK, boomer » ? Merci, je l'ai entendu. En fait, elle vient de cette vidéo sur TikTok où tu as ce vieux monsieur à casquette qui explique que les jeunes, ils ont le syndrome de Peter Pan, ils grandiront jamais, tati et tati et tata. Et tu as le gamin à côté qui a écrit sur son carton, qui le regarde en soupirant les yeux au ciel et puis qui sort « OK, boomer ». Et d'un seul coup, ça a fait traîner de poudre. Tous les gens comme vous ont compris qu'il y en avait marre de faire de l'ado bashing. Hein, c'est-à-dire qu'il y en avait marre que, sans arrêt, cette génération qui a tout réussi, y compris à réchauffer la planète, se prétende capable de faire mieux que tout le monde. Voilà. En même temps, il faut faire attention à l'usage, parce que derrière l'ado bashing, il y a aussi de l'ado marketing. Ça, c'est soi-disant le jaune de la génération Z. C'est la couleur faite découverte par les ingénieurs de Pantone. Pantone, c'est en imprimerie le plus grand, celui qui définit les couleurs des encres. Et le jaune serait donc, merci à vous, votre couleur. Parents, je ne vois pas grand monde en jaune. Mais bon, voilà. Donc en fait, on a un phénomène de marketing derrière cette idée de pratique générationnelle. Et l'ado bashing, on le retrouve partout. Il y a le terme utilisé là, c'est panique morale. En sociologie, une panique morale, c'est quand on a quelque chose de nouveau qui apparaît. Il y a toujours des gens qui disent « oui, ça va provoquer ». Alors vous savez que le train, on ne pourrait jamais dépasser 30 km/h, sinon on deviendrait fou. Celle que j'adore le plus, c'est quand les machines à coups de Singer où on la faisait marcher avec le pied, ont été mises en place, ça expliquait que ça allait rendre les femmes infertiles. Bon, il y a toujours des paniques morales, celles que vous vivez au quotidien. sur... bon, moi, quand j'étais jeune, on ne comprenait pas que je puisse écouter de la musique tout en travaillant. Voilà, vous, maintenant, on ne comprend pas que vous puissiez avoir le téléphone à côté du travail. Mais le téléphone, en fait, il vous sert à faire des petites choses sympas. Des lolcats. Moi, j'aime bien la définition que donne André Gunther de ces pratiques-là. C'est en fait, c'est pas le chat qui est important, c'est la manipulation du système vidéo. Je filme, je découpe, je diffuse, j'apprends en fait à me servir de la sphère numérique telle qu'elle existe. Et puis c'est aussi de montrer que j'existe dans le réseau. En termes de communication, c'est ce qu'on appelle la communication fatique, c'est-à-dire je vérifie que le canal marche. Je vérifie que je peux diffuser quelque chose, que mes amis vont le lire, vont me faire un like, enfin, etc. Donc je vérifie qu'il se passe quelque chose. C'est la communication où il ne se dit rien, mais qui montre que le canal existe. Et en fait, Henry Jenkins, dont je vais vous reparler tout à l'heure, parce que c'est un spécialiste de la culture participative, dit que la plupart des ados américains produisent des vidéos, mais en fait, ils s'en servent ensuite. Et on le voit aujourd'hui avec Black Lives Matter, avec tout ce qui se passe actuellement, ils s'en servent ensuite pour produire quand c'est utile, pas in abstracto. Donc, ce que je veux dire par là, c'est qu'il ne faut pas mépriser toute une série de pratiques sous prétexte que ça ne serait pas de la grande culture. Oui, ça va, on l'a entendu, hein, tout ça. Ah! Vous le connaissez, lui? Écoutez-le. Nous sommes en 2007. Présentation.
I've been looking forward to for 2.5 years. Every once in a while, a revolutionary product comes along that changes everything. And Apple has been, well, first of all, one's very fortunate if you get to work on just one of these in your career. Apple's been very fortunate. It's been able to introduce a few of these into the world. 1984.
Vous voulez que je traduise en même temps?
We introduced the Macintosh.
It didn't
just change Apple. It changed the whole computer industry.
Alors, il dit en substance que Apple a eu la chance. Déjà, on a de la chance quand on change une fois le monde, mais Apple l'a fait trois fois.
In 2001,
première fois avec le Macintosh,
we introduced the first iPod.
L'iPod, qui a changé
And
le monde de la musique.
It didn't just change the way we all listen to music. It changed the entire music industry. Well, today. We're introducing three revolutionary products of this class. The first one is a widescreen iPod with touch controls.
Donc un iPod à écran tactile. Premier produit nouveau.
The second is a revolutionary mobile phone.
Un téléphone.
And the third is a breakthrough internet communications device. So, three things. A widescreen iPod with touch controls, a revolutionary mobile phone, and a breakthrough internet communications device. An iPod, a phone, and an internet communicator. An iPod, a phone. Are you getting it? These are not three separate devices. This is one device. And we are calling it iPhone. today.
Voilà. Alors, ce que je trouve de cette vidéo absolument passionnante, d'abord, j'espère que vous avez rappelé votre cours d'anglais, que c'est venu avec, c'est cette logique de la rupture. Nous produisons des objets qui vont changer le monde. Bon, on verra tout à l'heure, on parlait un peu d'économie, que Apple est devenue la plus grosse capitalisation boursière. Donc ça change son monde, ça c'est sûr. Hein. Mais c'est là pour changer le monde. Donc c'est le discours prégnant de toutes les industries du numérique. Le deuxième, parler de société du spectacle pour la consommation. Là, on est typiquement dans la société du spectacle. Je ne présente pas un produit, je n'en fais pas la description. J'en fais le spectacle. Et on avait un showman absolument fabuleux. Donc, voilà. La vidéo complète fait 14 minutes. Hein. Juste les 2 minutes d'introduction me semblent les plus significatives. La troisième chose importante, c'est tous ces applaudissements. Donc, on applaudit la présentation d'un produit. Mais qui c'est « on » ? C'était les gens qui étaient à la Apple Fair, et donc c'est les journalistes. Et vous voyez, vous vous rappelez quand je vous disais tout à l'heure que le mélange de la publicité, promotion et de l'information, le journaliste n'est pas censé applaudir celui qui vient de lui faire une présentation. Donc on a là quelque chose qu'il faut vraiment bien penser, qu'on nous vend du mythe, on nous vend du rêve, et ce mythe et ce rêve, et souvent, il mérite qu'on rêve et qu'on suive les mythes, mais on nous le vend. Donc, il faut aussi peut-être des fois prendre un peu de recul par rapport à ça. Alors, en fait, donc en 2007, Steve Jobs introduit bien un produit qui va radicalement changer notre monde, puisqu'il introduit le fait que nous allons avoir tous un ordinateur dans la poche, une connexion à Internet, un moyen d'isolement, la musique avec les oreillettes, et un moyen de communication, donc un téléphone, une capacité d'échanger, etc. Et ça, aujourd'hui, personne ne s'en passe. Enfin, tout au moins, tous ceux qui ont les moyens de ne pas s'en passer ne s'en passent pas. Mais c'est un peu partout. Hein. C'est un téléphone à tout faire, hein, y compris à payer, à commander. Il y a toujours une app pour faire quelque chose. C'est un téléphone qui nous géolocalise, c'est-à-dire on sait toujours où vous êtes. Enfin, on. C'est pareil, c'est qui on ? On, là, en l'occurrence, c'est les FAI, les gens qui gèrent le service que vous avez pris avec le téléphone, et puis toutes les applications que vous utilisez. Donc, qui peuvent vous faire de la publicité géolocalisée, mais qui peuvent aussi vous suivre. Par exemple, on a repéré comme ça des camps d'entraînement américains en Afrique parce que les soldats, quand ils allaient courir, ils avaient un téléphone pour enregistrer leurs performances. Dans le New York Times, il y a eu toute une série où ils arrivent à suivre à la trace le président des États-Unis, qui, lui, n'a pas d'iPhone, mais bien un brouilleur, un téléphone brouillé, juste en suivant ses gardes du corps qui, eux, n'ont rien d'autre à faire quand ils s'ennuient que de regarder leur téléphone, et ainsi de suite. Donc, cette géolocalisation, c'est un véritable danger. L'anonymat qu'on a quand on va manifester n'est plus respecté, puisqu'on peut très bien savoir dans quelle rue vous étiez à quel moment, et ainsi de suite. Alors, c'est dans le monde entier. Hein. Ça, c'est une photo prise dans un village au nord du Vietnam. Et vous voyez, ces vieilles femmes ont toutes un téléphone dans la main. Donc là, on a basculé. En particulier, ce qui a basculé, c'est la Chine. La Chine n'a jamais connu l'Internet via l'ordinateur. Enfin, si, les universités, des choses comme ça. Mais le peuple, lui, pour lui, Internet, c'est le téléphone. Pour lui, la communication, c'est le téléphone. Et c'est même plus que ça, c'est la messagerie à l'intérieur du téléphone qui sert à tout. Qui sert à se connecter avec ses amis, qui sert à payer, qui sert à commander, qui sert à faire du commerce. Enfin, ça sert à tout. C'est ainsi qu'on a créé un monde séparé d'une autre qui s'appelle le cyberespace. Le terme cyberespace a été utilisé par William Gibson, un auteur de science-fiction, qui a écrit ça dans son premier livre en 1984. Il n'utilisait pas d'ordinateur. Il avait juste imaginé qu'il y avait une couche d'information qui allait recouvrir le monde et que cette couche d'information, il y avait des gens qui allaient s'immerger dans la couche d'information, donc être dans le cyberespace, et à partir de ça, piloter l'ensemble du monde, des médias mondialisés, etc. C'est un très, 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 très beau livre. Et surtout, ce qui est intéressant, c'est un livre de science-fiction qui, dans les années 80, était un des livres les plus cités à l'intérieur des références scientifiques en informatique. Donc, vous voyez, cette idée que les auteurs de science-fiction influencent derrière l'orientation dans laquelle vont se mener des recherches. En 96, John Perry Barlow écrit une déclaration d'indépendance du cyberespace. Alors, la déclaration est longue, là c'est juste la première phrase. Que dit-il par là ? Il dit « Nous vivons dans un monde immatériel ». Bon, depuis, on s'est rendu compte que c'était très matériel, qu'il y avait des câbles, qu'il y avait des serveurs, qu'il y avait des câbles sous-marins, qu'il y a une consommation d'énergie qui est à peu près 5% de l'électricité produite sur la planète, que c'est très matériel. Hein, donc aujourd'hui, on en vient à parler de la sobriété numérique, c'est-à-dire comment on va faire en sorte d'économiser la planète, économiser l'énergie, demander aux programmeurs d'applications d'appliquer des règles pour consommer le moins d'énergie, à la fois sur vos appareils en récepteur et sur les serveurs et sur l'ensemble de la chaîne. Mais il dit, bon, nous sommes un endroit immatériel et on ne veut pas que vous, puissance du vieux monde, il dit ça à Davos devant les patrons et les grands dirigeants de la planète, on ne veut pas que vous veniez appliquer vos lois à l'intérieur du cyberespace. Alors, c'est un piège de dire ça, parce que s'il n'y a pas de loi à l'intérieur du cyberespace, c'est la loi du plus fort, c'est bien connu. Hein, la loi, c'est fait pour construire de l'égalité, en principe. Ça ne marche pas toujours, hein, d'accord. Mais c'est le principe même de la loi, c'est celui-ci. Donc, le fait de refuser des lois va construire la loi du plus fort avec une concentration des entreprises qu'on connaît actuellement, derrière des Facebook, Google et Apple. Voilà, on a tout ça. Voilà, donc, et ce texte a pourtant eu beaucoup d'importance pour les gens qui ont cru en une utopie d'un monde nouveau qui allait être rendu disponible, qui était le cyberespace, donc une nouvelle frontière, un nouvel horizon où on allait pouvoir partir de zéro. Quelque part, c'est toujours le mythe qu'on va pouvoir partir de zéro et créer un monde meilleur. C'est ça, l'utopie. En réalité, ce qu'on a créé, c'est une pop culture, mais je vous propose qu'on en parle après une petite pause.